Bonjour aux auditeurs de Radio Aligre et bienvenue à l'émission du Collège international de philosophie, philosophie au présent. Alors dans le cadre de la semaine de l'exil, nous avons décidé, Isabelle Raviolo et moi-même, de donner la parole à une association qui s'appelle le PARIA et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui ses membres fondateurs, Laurent Bazin et puis Mohamed Bridji, voilà, qui nous font le plaisir de venir ce matin discuter avec nous. On va leur poser des questions sur la fondation de cette association, sur leur rencontre et sur vraiment l'aspect très singulier de cette association qui n'est pas seulement, on sera amené à en reparler, pas seulement une dimension militante et politique, mais aussi une dimension, et c'est ça qui nous intéressait, scientifique et artistique. Nous espérons comme ça leur apporter une audition, une publicité qu'ils méritent. Et on vous renverra bien entendu plusieurs fois à leur site leparia.fr qui est vraiment un site très très bien fourni et très bien documenté.
Bienvenue Laurent Bazin et Mohamed Bridji, merci de votre présence, merci pour les auditeurs. Comme Nathalie Perrin vient de vous l'annoncer, chers auditeurs, nous allons entendre ces deux membres fondateurs de l'association Le Paria. Avec, c'est vrai, un mot fort, le paria, qui dit peut-être aussi la violence d'une réalité, la colère de citoyens engagés, et aussi l'urgence d'une action sur le terrain, Nathalie.
Oui, alors peut-être la première question qu'on aurait envie de vous poser à l'un comme à l'autre, c'est le choix de ce mot paria. Et puis j'enchaîne un petit peu mes questions, puisqu'il y a une petite histoire, ce mot paria, bon, qu'il existait déjà et que vous le reprenez et que vous lui redonnez un sens. Et puis me semble-t-il aussi, votre association, elle est née à partir de votre rencontre et d'une rencontre très particulière avec ce qui est arrivé à Moa aussi, puisque c'est aussi lui le centre de cette association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, hein?
Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bridji Mohamed, alias Moha, c'est comme ça qu'on m'appelle dans le monde intellectuel. Je suis né en Algérie, j'ai quitté le bled avec mes parents à l'âge de 7 ans pour aller en Allemagne. On habitait dans des camps de réfugiés. Ensuite, entré en France à l'âge de 15 ans. Là, c'est rebelote aussi les hôtels et les foyers. Avec ma famille, j'étais séparé de mes sœurs et mes frères pour aller au foyer. Et c'est là que ça a commencé, en fait, ma délinquance avec la prison. Et je me suis fait expulser en 2012. Avant d'être expulsé, j'étais 45 jours au centre de rétention de Vincennes. Et c'est en Algérie que j'ai rencontré Laurent. Voilà. Et voilà, quoi. Que vous dire de plus? Et on écrit un livre... qui s'appelle Le Retour du Refoulé.
Oui, qui est sur votre site, leparia.fr.
Nous avons balancé quelques extraits sur le site.
C'est magnifique.
Et Et depuis, on a créé le site internet, comme tu l'avais précis, Nathalie, leparia.fr, avec l'association. Au début, on était un duo, maintenant on est 15, on travaille avec des artistes. Et le site, l'asso, c'est le journal. Voilà, je crois que je me suis présenté. À toi, Laurent.
Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Laurent Bazin, je suis chargé de recherche au CNRS, je suis anthropologue et je travaillais en Algérie, en fait, ces dernières années. Et c'est en Algérie que j'ai rencontré Moha après qu'il ait été expulsé. Et donc, j'ai décidé de l'aider, en fait, à faire reconnaître ses droits au séjour en France, donc des droits au séjour dont il a été spolié, en fait, à la suite d'un séjour de prison. Donc il a perdu son titre de séjour pendant qu'il était en prison, et donc ensuite il a été expulsé par la police. Et donc effectivement, je lui ai proposé assez rapidement d'écrire un livre qui raconte son histoire, donc comme une manière d'interpeller l'opinion publique et de prendre le public à témoin, en fait, en disant voilà ce que c'est qu'une vie d'un expulsé, quelqu'un qui est montré, en fait, par rapport à tous les discours sur l'immigration qui ont complètement envahi le champ politique depuis des dizaines d'années. montrer en fait la réalité de ce que c'est qu'un parcours migratoire avec toute l'emprise des institutions en fait de la police, de la justice, de l'administration pénitentiaire, la préfecture qui complique l'obtention des titres de séjour, etc. Montrer en fait la réalité. Et donc lorsque Mora donc revenu en France a déposé une demande de titre de séjour, donc ça c'était en mai 2016, on a commencé à écrire le livre à peu près au même moment. Donc le livre, on l'appelle Le Retour du Refoulé. Et puis, il a reçu, en fait, au mois d'octobre 2016, 6 mois plus tard, un refus de titre de séjour avec une obligation de quitter le territoire. Et c'est là où on a réagi, en fait. D'abord, il a fait un recours au tribunal administratif, qu'il a gagné. Et puis, on a créé ce site internet qui s'appelle leparia.fr. Dans l'idée de montrer en fait le livre en train de s'écrire. Donc dans l'idée aussi de faire connaître Mora, sa situation, et que s'il devait être à nouveau menacé d'expulsion, qu'il puisse trouver des soutiens pour empêcher cette expulsion. Et heureusement, il a gagné au tribunal administratif. Et donc voilà, donc on a décidé de créer ce site leparia.fr et de mettre en ligne en fait l'écriture du livre qu'on était en train de faire. Et donc le premier chapitre est intégralement en ligne, et puis quelques autres extraits. Et donc c'est devenu en fait une écriture action en quelque sorte, une écriture pour engager, pour dans un combat en fait. Donc l'écriture ici ne se dissocie pas de l'action en fait, de l'action militante. Donc c'est le combat de Mora, mais c'est aussi le combat de tous ceux qui partagent sa situation. Alors pourquoi le paria, pour en revenir à ta question? C'est parce qu'en fait, enfin l'idée originelle, c'est tout simplement que Mora, paria, c'est en fait, pardon, le paria, c'est en fait un des mots qui désigne les intouchables en Inde, donc qui est passé dans le langage, donc quasiment toutes les langues européennes, je pense. Et lorsque les intouchables en Inde se sont constitués en mouvement politique, ils se sont appelés les Dalits, qui veut dire en fait broyés, écrasés par le système. Et donc c'est une espèce d'analogie en fait. Mora, lui, il a été spolié de ses droits au séjour et il est tombé effectivement dans une condition qui est celle d'un paria, d'un véritable paria, c'est-à-dire indésirable partout, expulsé de France, étranger en Algérie, dans son pays natal. Et c'est quelqu'un qui, donc, il n'est pas hors caste. Enfin, on pourrait discuter du système des castes ou pas. Mais c'est quelqu'un qui était hors statut, qui a été mis hors statut légal, en fait, par l'administration, les administrations françaises. Donc c'est ça, en fait, l'idée initiale du paria. Et ensuite, on s'est aperçu, on n'en avait pas conscience au moment où on a créé le site, mais on s'est aperçu qu'il a existé un journal qui s'appelait Le Paria entre 1922 et 1936, et qui était le journal de l'Union intercoloniale. C'est-à-dire que c'est tous les leaders en fait des mouvements naissants d'émancipation des colonies dans les années 20, sous l'égide du Parti communiste, qui s'exprimaient en fait dans ce journal Le Paria. Et son rédacteur en chef n'était autre que Ho Chi Minh en fait. Et donc en fait, c'est pas tout à fait un hasard si on se retrouve en fait sur les traces de ce prestigieux ancêtre. C'est que effectivement l'une des questions qui moi en tant qu'anthropologue aussi m'intéresse, c'est la question du retour du refoulé colonial en fait. C'est l'autre sens du titre du livre, le retour du refoulé colonial, c'est-à-dire qu'est-ce qui en fait dans le legs colonial explique la situation actuelle en fait des politiques anti-migratoires et de ce qu'on pourrait appeler une pratique raciste en fait des administrations françaises.
Oui, j'avais été très étonnée, très surprise, très touchée de quand vous expliquez sur votre site le choix ou l'histoire de ce mot paria, et que vous dites reprendre ce titre du journal pour je vous cite, traité de la fabrication des damnés de la terre. Parce que bon, pour reprendre un peu ce que tu disais, finalement le paria, c'est le paria n'a paria, c'est le paria de quelqu'un qui est presque hors caste. C'est moi. Donc c'est aussi une défense et une protection de lui d'une certaine manière aussi ce site. Mais c'est aussi la défense et porter la parole de tous ceux qui sont les damnés de la terre, tous ceux qui sont parce qu'ils ne rentrent pas dans des fameuses cases de notre civilisation, de notre société qui préclasse les gens, et de plus en plus, sont assujettis, sujets à des procédures, à des injustices, etc. Donc c'est aussi ça, ça part d'une rencontre d'une personne, d'une rencontre entre vous deux, de la défense d'une personne, et en même temps pour porter la parole de ceux qui sont damnés. Et ça, j'avais trouvé ça très, très fort sur votre site.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est à la fois un combat personnel et c'est une lutte pour l'existence. Hein. Je veux dire, Morat, lui, doit lutter pour exister, en fait, et pour faire reconnaître son existence, en fait, par les autorités. Donc, lorsque le préfet lui envoie une obligation de quitter le territoire à quelqu'un qui a grandi en France, etc., qui est depuis 20 ans en France, c'est véritablement la négation de son existence. Renvoyer quelqu'un dans son pays natal qu'il a quitté à l'âge de 16 ans parce que ses parents ne voyaient pas d'avenir pour lui en Algérie et qu'il voulait justement migrer pour trouver un avenir à leurs enfants. Donc renvoyer quelqu'un dans son pays natal dans ces conditions, c'est véritablement anéantir son existence, en fait. C'est le renvoyer dans le néant.
Oui, on sera amené à reparler de ce retour du refoulé, comme bon, ces extraits du livre que vous êtes en train d'écrire et qui est absolument magistral. Je propose qu'on fasse peut-être une première pause musicale.
D'accord, Nathalie. Alors, une première pause musicale avec la très belle chanson « C'est déjà ça » d'Alain Souchon.
C'est bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air. C'est déjà ça. Quand je danse en marchant, danser j'ai là-bas. Ça fait sourire les passants. C'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain. Pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain. Suis de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est morphine, coule. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça.
Voilà, nous sommes de retour après avoir écouté cette magnifique chanson d'Alain Souchon, c'est déjà ça. Voilà, je précise aux auditeurs qu'on a choisi des musiques dans le cadre de cette émission de l'exil et aussi en rapport avec l'association Le Paria que nous recevons. Voilà, Mohamed Bridji, Moha pour les intellectuels et Laurent Bazin. Voilà, je voulais rebondir avec nos deux invités et peut-être évoquer avec eux... ce qui nous a vraiment touché et plu dans cette association, c'est-à-dire cette alliance de l'action militante et politique avec un registre scientifique et créatif. Et j'avais envie de vous demander comment vous liez ces aspects qui sont au fondement de cette association et qui fait son originalité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas seulement dans le politique, vous êtes aussi dans une volonté de création. Voilà.
Oui, effectivement. Donc l'origine de ça, c'est que quand on a créé le site internet, comme je disais tout à l'heure, en fait, on s'est retrouvé dans une forme d'écriture nouvelle, en fait, qui utilise le numérique. Et donc le numérique transforme en fait l'écriture. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose de linéaire comme un livre, comme un texte écrit, mais on a toute une possibilité en fait de référencement, etc. Donc, enfin, je ne vais pas trop développer là-dessus. Et donc on a commencé à vouloir associer en fait des formes d'expression en fait à partir de réflexions sur la forme d'expression écrite. Donc déjà moi en tant que scientifique, bien sûr ce livre je ne l'écris pas comme un livre scientifique habituel. On essaye de l'écrire de manière plus littéraire en donnant un style en fait.
Laurent, déjà il faudra préciser aux auditeurs pardon que le slogan du site c'est ouvrir sa gueule, déballer la merde, se rebiffer.
Oui, tout à fait. Et donc, on essaye, effectivement, ouvrir sa gueule, déballer la merde, se rebiffer. Hein, c'est tout l'esprit dans lequel on écrit et pourquoi on écrit, en fait. Et donc, l'idée, c'est d'associer, de faire passer, en fait, des connaissances scientifiques par d'autres moyens en fait que des textes scientifiques. Donc déjà l'écriture, une forme littéraire, mais aussi d'autres formes d'expression qui peuvent s'associer, etc. Il y avait un projet de bande dessinée, il y a une comédienne Rachel Cohen qui nous a rejoint, qui a fait plusieurs performances dans lesquelles elle raconte notre rencontre. Elle raconte aussi comment Moha s'est fait tabasser par des policiers et poursuivre en justice au mois de mars dernier. Etc. Donc on essaye de trouver une forme originale en fait d'expression de toutes ces problématiques en fait qui concernent non seulement le droit des étrangers en France et toutes les difficultés qu'ils rencontrent, mais c'est aussi les politiques sur les banlieues, donc de ghettoisation des banlieues, la politique pénale, judiciaire, les violences policières, etc. C'est tout un ensemble de choses en fait qu'on aborde et qu'on essaie, sur lesquels on essaye de dresser des articulations, de montrer en fait comment les différentes politiques se répondent les unes les autres autour de la production justement des nouveaux damnés de la Terre.
Oui. Est-ce à dire que ouvrir sa gueule, déballer la merde et se rebiffer ne peut passer que par finalement, je dirais, une association des champs des savoirs ou des champs de pensée ou des champs de création pour pouvoir faire un peu bouger la société? Est-ce que c'est finalement un peu ça qui vous meut? Est-ce que c'est parce que vous avez aussi des philosophes dans cette association? Vous avez Christiane Voller, faudra qu'on reparle d'ailleurs de son article quand elle a suivi le procès de Moa.
Je passe un grand bonjour à Christiane Voller.
Ouais. Nous aussi, on la salue et on va l'inviter pour son livre La philosophie de terrain. Mais un peu dans les champs que vous mettez en place à travers le paria, il y a cette idée aussi d'un décloisonnement. C'est pas seulement toi en tant qu'anthropologue, c'est l'anthropologue, c'est la personne de la rue, c'est le travailleur, c'est aussi le musicien, c'est la personne de théâtre, etc. Donc est-ce que c'est cette idée que finalement il faut qu'on s'associe tous les champs de création, tous les gens qui participent à cette société, pour essayer de la faire bouger?
Bon, en fait, voilà, hier j'étais à la chambre des métiers pour faire mon matriculation, donc je veux faire auto-entrepreneur. Et moi, mon projet, en fait, c'est un food truck. Genre, le délire, c'est la journée, je vends ce que je sais faire. Le soir, je voudrais faire des maraudes. Comme j'étais à l'occupation Paris 8 et la Brèche où je faisais de la bouffe pour les sans-papiers, les réfugiés. Et comme je disais, le soir, c'est de faire des maraudes et distribuer de la bouffe aux SDF précaires, ceux qui sont à la rue. Et en même temps aussi faire du street art, genre le spectacle de rue où je peux faire venir les membres du collectif, pour parler, pour ouvrir sa gueule et pour la déballer, quoi.
Oui, donc effectivement, l'idée, c'est de décloisonner, en fait, les différents champs. C'est vrai que les différents champs ne se parlent pas beaucoup entre les scientifiques d'un côté, les artistes, les militants de différents horizons, etc. Donc l'idée, c'est effectivement de décloisonner tout ça, d'essayer de tisser des passerelles, etc. Parce que tout seul, on n'est rien. Je veux dire, on est fort quand on est nombreux et quand on est unis, quand on articule en fait nos différents discours, nos différentes actions. Et donc, je pense que c'est très important, même si c'est très compliqué, en fait, de tisser des liens comme ça entre les milieux militants, les milieux artistiques, les milieux scientifiques et d'autres, hein, bien sûr. Et puis les gens ordinaires, enfin d'une certaine façon. Donc entre les différents combats aussi des uns et des autres. Donc il y avait le 18, il y a deux jours, c'était la journée internationale des migrants. Il y a eu une grande marche des solidarités qui a été organisée sur toute la France et donc à Paris, nous on y était à Paris.
Et ils en ont même pas parlé aux médias.
Oui, on n'en a pas entendu parler, effectivement.
C'est affiché sur votre site, par contre.
Oui. Voilà, ça, c'est, voilà. Et donc, le paria y participait. Il y avait plus de 200 organisations qui appelaient à cette marche. Donc, des micro-organisations comme la nôtre, enfin, je veux dire, on n'est pas très nombreux, et puis des grosses organisations, y compris des syndicats, des partis politiques, etc. Mais effectivement, donc, cette marche des solidarités, elle se construit depuis 2 ans, et on voit bien, donc nous, on y assiste, et puis en même temps, on observe ce qui s'y passe, et on voit bien que c'est très compliqué, en fait, de construire vraiment un front uni sur ces questions du racisme, des politiques anti-migratoires, etc. Mais d'une certaine façon, ça progresse. Et je pense que c'est la multiplication des initiatives dans tous les sens et l'articulation entre toutes ces initiatives, en fait, sont d'une certaine façon porteuses d'espoir, parce qu'on est quand même dans une conjoncture idéologique et politique extrêmement nauséabonde, en fait.
Oui. Je vous posais une question à tous les deux sur un petit peu les champs du paria et ce qui meut cette association, et ce que votre site décrit et ce sur quoi il insiste, c'est aussi la forme atelier. Et cette forme atelier qui vraiment qui bon qui que j'aime beaucoup. Moi, je viens de l'université Paris 8 et au moment des grèves il y a quelques années, il y avait eu cette forme atelier en philosophie. Et l'atelier chez vous, dans l'association du Paria, prend donc la forme essentielle du retour du refoulé. Et je lis ce que vous diffusez sur le site et j'aurais aimé. Alors outre effectivement que donc c'est l'histoire, c'est ton histoire, Moa, c'est que tu racontes. C'est l'histoire d'un mec. Ouais, j'aime bien cette phrase là. C'est l'histoire d'un mec, mais c'est ton histoire. Enfin, c'est d'ailleurs c'est intéressant. C'est l'histoire d'un mec. C'est-à-dire en même temps c'est toi et en même temps ça peut être tout le monde. En fait, c'est une histoire personnelle et en même temps possiblement anonyme. C'est-à-dire au sens où elle touche tout le monde. Elle pourrait toucher tous ceux qui sont au banc de cette société dès qu'on rentre pas dans les cases qui sont prédéterminées. Et j'aurais voulu un petit peu que vous nous parliez un peu de cette écriture à deux, de ce que ça vous fait de la fin que vous lui donnez, enfin de qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce qu'elle vous fait cette écriture, qu'est-ce qu'elle permet.
Alors donc je vais vous raconter une petite histoire. En fait, je suis passé en procès le 2 juillet là parce que je me suis fait tabasser à la gare du Nord 4 mois auparavant. Et ça faisait la deuxième fois que je me fais tabasser en 6 mois. Et j'ai fait de la garde à vue. Voilà, je me suis fait tabasser, gazer et insulter. Ça faisait, je faisais de la garde, ouais, 48 heures de garde à vue. Les flics ont porté plainte contre moi. Et ouais. Moi, Henri Brown, qui est membre du collectif et mon avocat en même temps,
ouais.
On a décidé aussi de porter plainte. Et voilà, le soir, quand je me suis fait traîner au commissariat de la cellule jusqu'au camion, déjà, bien évidemment, avant ça, je me suis fait tabasser dans la cellule et tout, par la deuxième équipe. Et arrivant à l'hôpital, en fait, j'étais là en train d'attendre le médecin. Et il y avait 3 flics qui m'accompagnaient, en fait. Ils étaient là et un des 3 me regardait façon moqueur et me disait, tout en souriant, « Putain, comment on t'a traîné comme une pute, comme une catin. » Et je lui dis, « Mon pote, ça va faire un bon article, ça. » Et un autre, il fait, « Pourquoi tu fais partie d'un collectif genre Amel Bentoussi ou autre ?» Je passe le bonjour à Amel Bentoussi. Et je lui dis non, mais vous allez être connu, quoi, tu vois. Et c'est l'écriture, ça me permet, si tu veux, genre pour moi, c'est devenu quelque chose de thérapeutique, genre si tu veux. Je me soulage avec l'écriture, tu vois. C'est devenu, franchement, c'est devenu une arme de combat, en gros. Voilà. Et voilà, quoi. Et c'est aussi une espèce de réparation, une reconstruction aussi qui s'était installée en fait. Et voilà, quoi.
C'est une réparation, mais en fait comme tu le dis ou comme tu le laisses entendre, c'est aussi parce que tu écris et parce que tu peux avoir une audience par le paria qu'on va peut-être un petit peu te laisser tranquille. Il y a peut-être ça aussi. Enfin, c'est une écriture qui te soulage, mais qui en même temps te défend, est-ce qu'il y a ce poids-là de politique de l'écriture, en fait.
Un exemple, en 2012, par exemple, avant d'être expulsé, j'ai fait 45 jours plein dans un centre de rétention, et quand je suis revenu, le préfet a demandé, il m'a collé une OQTF, il m'a dit, t'as un mois pour tourner en Algérie, et on a fait recours. Et des fois, il y a des contrôles d'identité comme ça où je me suis encore retrouvé au centre de rétention de Vincennes. Mais cette fois-ci, c'était une nuit. Pourquoi ? Parce que j'avais les soutiens.
Oui, bien sûr. Ouais, ouais. C'est...
En 2012, je ne connaissais pas Laurent en 2012. Tu vois, le Paris n'existait pas en 2012. Voilà.
Bien sûr. D'ailleurs, je renvoie nos auditeurs. Moi, j'ai vraiment été, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai vraiment été touchée de la manière dont Christiane Voller raconte le jour du procès, cette journée au tribunal du 2 juillet 2018. Et c'est très touchant parce que bon, c'est là où tu as été arrêté, tu passes en procès. Parce que voilà, t'as été tabassé, garde du Nord, et tu es la victime, et on t'accuse, alors que c'est toi qui devrais être l'accusateur, puisqu'on on n'a pas respecté ta dignité, hein, on t'a accusé à tort et on t'a tabassé. Et
je me fais tabasser, en plus de ça, je dois payer, tu vois. Là, c'est quoi, c'est les tiges, les travaux intérêts généraux de 170 heures, et je dois verser 300 euros à chaque fois.
Voilà. Et ça, Christiane Voller raconte ça magistralement.
Moi, j'adore Christiane Voller.
Et ce que j'ai retenu, moi, que je trouve très touchant, c'est t'étais le seul à être soutenu. En fait, et c'est ça qui fait aussi, tu t'en es pas bien tiré du tout, puisque, finalement, tu dois payer. Et elle raconte bien d'ailleurs qu'on attend, la police attend d'être payée, parce que, de ce tabassage va ressortir l'équivalent des heures supplémentaires qu'ils ont obtenues aujourd'hui, d'ailleurs. Ah bon, alors que les profs peuvent toujours attendre pour les avoir. Donc, il y a vraiment, là, je renvoie vraiment nos auditeurs à cet article de Christiane qui montre vraiment que.
Qui est sur le site
leparia.fr. Voilà. Et Christiane Voller est philosophe et elle a écrit ça le 4 juillet 2018. Elle était avec vous, avec toi, au tribunal. Hein, et voilà. Et elle raconte bien ce crissement des gants et ce crissement des bottes à la fin.
Ils attendaient que ça.
Ils attendaient les 300 euros.
Les 300 euros. Et aussi, est-ce qu'ils m'embarquent aussi?
Voilà, exactement.
Que ça. Mais ouais. Elle explique super bien. Christiane Voller, je vous invite tous les auditeurs d'aller sur le site leparia.fr et de lire les récits de Christiane Voller.
Oui. Alors sur cette écriture à deux, est-ce que c'est une écriture à deux? Alors est-ce que c'est une composition à deux? Comment ça se passe? Comment vous organisez ça?
Moi, je dois dire aujourd'hui, franchement, j'ai trouvé mon territoire, c'est celui des mots. Je dois dire. Alors, franchement, c'est grâce à Laurent parce que c'est lui qui me prête sa plume. Mais j'ai eu de la chance vraiment de. Franchement, et je parle non seulement pour moi, mais pour tous les parias, rejetés de la société, les broyés, tous les exclus de la société qui, voilà, je parle pour eux, ceux qu'on n'entend pas en fait. Voilà, c'est fait pour ça aussi qu'on a créé le site.
Oui, on écrit effectivement à deux, donc Moha raconte en fait, et moi j'enregistre, ensuite je transcris, et puis je commence à donner une première forme à l'écriture en essayant de donner du style, donc de respecter son langage, ses mots à lui, etc. Mais évidemment, le langage oral n'est pas la même chose que le langage écrit, donc j'essaye de donner du style. Ensuite, on relit ensemble ce qu'on a écrit, on complète, on modifie, etc. Donc c'est vraiment en fait un travail de co-écriture. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré Moha comme mon co-auteur et non comme mon sujet d'étude. Je ne travaille pas. En fait, moi, mes recherches portent sur le travail et le logement. J'ai travaillé sur différents pays, etc. Ce que je fais n'est pas du tout dans le cadre de mes recherches habituelles, en fait. C'est comme si on faisait, en fait, une espèce de... Donc, je reviens sur l'idée d'atelier d'écriture. Au début, on avait appelé notre site un atelier d'écriture expérimentale, en fait. C'est comme si, en fait, à travers l'écriture, on fait une sorte d'enquête, en fait. Donc Moha fait ressurgir ses souvenirs, ce qui est aussi tout un travail d'introspection et de réexamen en fait de sa trajectoire, de réinterprétation de sa trajectoire. Donc on le fait à deux, hein, puisque ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble de manière très intense. Donc on a des échanges permanents, on s'influence mutuellement. Excusez-moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et donc, oui, on avait appelé ça au début atelier d'écriture expérimentale. Donc, ça faisait un petit peu pompeux comme expression. Mais pour dire que, pour donner cette dimension expérimentale, donc, il y a à la fois le fait que Moha se reconstruit, en fait, à travers ce dispositif d'écriture. Donc, comme il l'a expliqué. Donc, il se constitue, en fait, comme sujet. C'est quelqu'un qui a toujours été l'objet, en fait, des institutions, des pratiques des institutions. Que ce soit les services sociaux de protection de l'enfance qui l'ont séparé de ses parents et mis dans des foyers pour mineurs à l'âge de 15 ans parce que les hôtels meublés coûtaient trop cher, que ce soit l'emprise de des tribunaux, de la police, etc. L'administration pénitentiaire, évidemment, la préfecture qui délivre les titres de séjour, etc. Et puis, finalement, le fait même de l'expulser, je veux dire, comme modalité d'insertion, de réinsertion après la prison, on ne peut pas plus antithétique, en fait, que cette expulsion. Ça montre vraiment l'inanité, en fait, de ces politiques de réinsertion. Mohadi, en prison, on dit « nique sa mère la réinsertion », c'est-à-dire que c'est du flan, c'est du blabla, et effectivement. Bref, donc, Mohadi, qui a toujours subi, en fait, l'emprise des institutions, comme tous les gens, on va dire, de sa condition sociale, en quelque sorte, aujourd'hui, à travers l'écriture, il se constitue comme sujet, en fait, et comme sujet politique. Et donc, c'est ça qui est important, en fait, ça fait partie, d'une certaine façon, de l'expérimentation, en fait, puisqu'on... Quand on a démarré tout ça, on ne savait pas où on allait, d'une certaine façon. Et donc, c'est toute une expérience, en fait, qu'on met en place. Et moi aussi, bien sûr, je suis complètement transformé, en fait, par cet exercice. Ce n'est pas seulement Moha. Et donc, et ensuite, donc, comme d'autres personnes sont venues nous rejoindre, donc Christiane Voller, Rachel Cohen, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, lorsque Moha a eu cette interpellation violente, cette agression policière, en fait, lorsqu'il a subi cette agression policière, moi, j'ai raconté, en fait, ce qui lui était arrivé. J'ai pris en charge le récit, enfin, tel qu'il me l'a fait, donc l'écriture du récit de son tabassage par les policiers. Ensuite, Rachel Cohen, dans une soirée qu'on a faite, qui s'appelait d'ailleurs « Le racisme au nom de la loi », une soirée qu'on a organisée dans le cadre de la semaine anticoloniale et antiraciste en 2018. Rachel Cohen a fait une performance, en fait, où elle raconte aussi ce qui s'est passé. Et puis, Christiane Voller a pris en charge, en fait, le récit de la journée au tribunal. Donc, on a... voilà comment on fonctionne, en fait, le paria. C'est... on produit, en fait, sous différents modes. On pourrait aussi utiliser la vidéo. Enfin, c'est notre projet d'utiliser différentes formes d'expression, en fait, pour raconter des choses... Pas forcément qui concernent Moha ou Moha et moi, mais aussi qui peuvent concerner d'autres personnes. Donc, raconter tout ça, en fait, avec différentes formes d'expression.
Oui, c'est vraiment très intéressant de vous entendre, Laurent Bazin, parce que juste avant la chanson d'Alain Souchon, vous parliez d'existence et de non-existence. Et là, en redonnant à moi le statut de sujet politique, vous n'en faites plus un sujet assujetti ou un objet des lois, injuste, mais un sujet actif, un membre existant à part entière par l'écriture, qui redonne un corps, qui redonne un esprit et qui fait peut-être plus encore exister que les existences convenues et encadrées dans les normes dont Nathalie parlait. Donc c'est vrai que moi, quand vous parliez de votre démarche à la Chambre des métiers, quand vous disiez, ben voilà, j'y suis allé, j'ai décidé d'être auto-entrepreneur, de faire des maraudes, et puis de faire du street art. Et c'est vrai que dans le slogan que vous disiez tout à l'heure, là, il faut...
Ouvrir sa gueule, déballer la
merde. Ouvrir sa gueule, c'est aussi s'ouvrir. Ouvrir, c'est aussi s'ouvrir dans son cœur, dans son esprit, et puis ouvrir la conscience des gens, quoi. C'est-à-dire la conscience des gens, toute refermée sur le quant à soi, sur le petit précaré, sur sa petite vie confortable. Voilà, nous, on est prof avec Nathalie. C'est vrai qu'en parler à nos classes, qui ensuite vont en parler à d'autres jeunes, c'est vachement important, je trouve, parce que c'est ça l'ouverture des consciences. C'est ça sortir de sa bulle, de son petit confort, de voir le monde à travers sa fenêtre, quoi.
En même temps, pour moi, c'est une manière aussi de trouver une paix intérieure, tu vois.
Ben, carrément.
C'est ça, le truc aussi.
Ouais, c'est...
Tu vois, avec toute la misère et la galère que j'ai vécue dans ma vie, voilà, c'est aussi ça... C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est thérapeutique, tu vois, ça soulage, quoi.
C'est, je trouve, thérapeutique et en même temps, c'est se reconstruire. Se reconstruire en redonnant ce poids à l'existence qu'on t'a enlevé. Voilà, on a voulu faire de ton existence une insignifiance, tu la resignifies dans les mots. Tu redonnes par le corps du texte le corps qu'on t'a enlevé.
C'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça.
Oui, c'est une très jolie expression.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas seulement l'écriture en fait, parce que donc on est actif. C'est pour ça qu'on écrit pas très vite aussi et qu'on a toujours pas fini le livre. C'est qu'on est très actif en fait surtout Moha, sur l'ensemble des réseaux militants en fait, beaucoup contre la marche des solidarités. Bon, maintenant c'est terminé, mais le salon antiraciste et anticolonial qui avait lieu chaque année. Malheureusement, il n'y en aura pas l'année prochaine. Et donc, il y a comme ça tout un ensemble d'actions, en fait, et d'actions avec les autres, en fait, avec d'autres collectifs, d'autres réseaux, etc., qui contribuent aussi, en particulier pour Moha, à redonner sens, en fait, à son existence et à son combat, en fait. Donc, dans la ligne de ce que tu disais.
Oui. Merci beaucoup. Je propose, avant d'entamer la dernière partie de l'émission, voilà, on avait sélectionné plein de chansons avec Isabelle Raviolo, et puis voilà, l'émission est magnifique et on adore vous entendre. Alors je propose qu'on écoute Rachida,
ouais.
Voilà, avec sa chanson qui n'est pas la sienne, mais qui s'appelle Ya Raya, qui est traduite par...
Ya Raya.
Ya Raya, pardon, je suis désolée.
T'étouffes pas, Nathalie.
Voilà, qui est traduite par Le Partant, et en fait qui est une chanson sur l'exil et ses conséquences douloureuses. Donc ça, c'est dans l'album Diwan de Rachida, qui est mort, vous le savez, il y a quelques mois, et c'était vraiment une grande perte pour la chanson française et mondiale et internationale, puisqu'il était autant connu à l'international qu'en France, peut-être même plus. Et la version originale, c'est de Daman El Arachi. Voilà, et je voulais simplement, pour nos auditeurs qui, comme moi, ne connaissent pas cette magnifique langue, vous donner les premières traductions issues du site de Tout et de Rien, site internet de Tout et de Rien, qui traduit ainsi la chanson. Ô toi qui t'en vas, où pars-tu ? Tu finiras par revenir. Combien de gens peu avisés l'ont regretté avant toi et moi ? Combien de pays surpeuplés et de régions désertes as-tu vu ? Combien de temps as-tu gaspillé ? Combien vas-tu en perdre encore et que laisseras-tu ? Ô toi l'émigré, tu ne cesses de courir dans le pays des autres. Le destin et le temps suivent leur course, mais toi, tu l'ignores. Pourquoi ton cœur est-il si triste ? Pourquoi restes-tu planté là comme un malheureux ? Les difficultés ne durent pas et toi, tu ne construiras ni n'apprendras rien de plus ainsi. Les jours ne durent pas, tout comme ta jeunesse et la mienne. Oh, le malheureux dont la chance est passée, comme la mienne. Je vous renvoie vers la suite de la traduction et je vous laisse écouter Rachida. Voilà, nous sommes revenus avec Moha et Laurent pour l'association Le Paria. Nous sommes avec ces deux fondateurs. Et pour cette dernière partie d'émission où on a un petit peu envie de vous interroger, Isabelle et moi, sur comment vous pensez la suite du Paria, de cette jeune association. D'ailleurs, on n'a pas précisé qu'elle était née association le 5 juillet 2017, puisqu'avant c'était un collectif. Quel avenir vous lui donnez? Puis peut-être un petit peu aussi, on aimerait bien vous entendre sur vos combats, en fait, sur ce qui en ce moment vous meut, vous choque, vous fait penser et agir.
Ouais.
Alors l'avenir, peut-être.
Ouais.
Alors l'avenir, on a beaucoup de projets, en fait. Et donc l'idée, c'est vraiment de continuer à travailler sur ces trois piliers que sont le scientifique, l'esthétique et le politique, le militant. Et on a envie, en fait, donc Mohab parlait tout à l'heure de son projet de food truck. Donc ça serait déjà... c'est-à-dire l'idée, c'est de faire du food truck, en fait, un support de street art, en fait, une forme d'agite propre, en fait. L'idée, c'est de réinventer, c'est beaucoup dire, mais de reprendre, en fait, d'une certaine façon, ce qu'on appelait dans les années 70 l'agite propre. Donc de faire des sous forme de spectacle, avec des débats, des discussions avec le public dans la rue, etc. De participer à ouvrir les consciences, comme tu disais tout à l'heure, c'est une très jolie expression, et multiplier les échanges, etc. Et l'autre projet, ça serait de travailler notamment sur faire soit une exposition, soit un spectacle autour de la bouffe de prison, c'est-à-dire comment les prisonniers cuisinent, en fait, dans leurs cellules. Donc Moha a beaucoup de choses à raconter là-dessus, ce qui est une manière de parler, donc à travers la cuisine, de parler de la prison, en fait, de multiples façons. En fait, on peut parler du quotidien des prisonniers, du système pénitentiaire, des relations entre les prisonniers, etc. On peut dire beaucoup de choses à partir de ça. Donc ça, c'est un peu les idées sur lesquelles on travaille. C'est-à-dire, jusqu'à présent, sur notre site et dans ce qu'on a fait, on n'a pas encore mis beaucoup l'accent sur la prison, mais je pense que c'est absolument indispensable de parler de la prison, de parler des politiques de toute cette continuité, en fait, entre le ghetto, la cité de banlieue, et puis la prison. Ce sont des univers qui sont en correspondance totale, en fait. Et la prison est aussi un nœud de communication entre les différentes banlieues, par exemple, entre les différents milieux sociaux, etc. Donc, par exemple, il y a un plat qui s'appelle...
Le Goulbi.
Qui est un plat gitan d'origine gitane qui est très prisé en fait dans les prisons, qui se fait qu'il y a une espèce de pizza qui se fait à partir de chips.
Vas-y. Bon, la pâte c'est du chips œuf et après il y a la sauce tomate et les ingrédients comme une vraie pizza quoi. C'est une pizza gitane.
Voilà, et donc ça montre, voilà, on peut parler de la manière dont la prison constitue aussi un nœud de communication en fait entre des milieux sociaux différents, donc par exemple les milieux gitans, les jeunes de banlieue entre guillemets, etc. Donc montrer en fait comment ça marche et cette continuité qui existe en fait entre ce qu'on appelle les quartiers populaires, les quartiers pauvres, surtout quand ils sont ghettoisés, et puis la prison. Et donc montrer aussi comment toutes ces politiques, ce que je disais tout à l'heure, toutes ces politiques en fait s'articulent les unes avec les autres. C'est pas un hasard si à partir du moment où on s'est lancé dans les dans la néolibéralisation, le néolibéralisme économique dans les années 80, en fait, on a commencé à mettre en place des politiques de plus en plus xénophobes, des politiques de plus en plus répressives sur la banlieue, etc. Donc on se plaint constamment. Je veux dire au niveau des discours médiatiques et politiques qu'il n'y a pas suffisamment de place en prison, mais tout simplement parce qu'on envoie de plus en plus de gens en prison.
Oui, bien sûr.
De la même façon pour les politiques migratoires, ces politiques anti-migratoires qui sont en vigueur et qui se durcissent de plus en plus depuis une trentaine d'années, elles sont dans un échec total. En fait, et elles produisent des morts par milliers. Il y a 5000 personnes par an qui meurent dans la Méditerranée. C'est considérable. Ce sont des politiques criminelles, véritablement. Elles n'ont aucune efficacité du tout. Je veux dire, elles ne répondent à aucun problème, à aucune utilité, à aucune nécessité. Ce sont des politiques qui sont tout simplement absurdes.
Oui,
c'est véritablement la contradiction centrale de la globalisation. Et néanmoins, on continue toujours d'avancer, d'aller plus loin dans cette espèce de course en avant à la xénophobie qui vont bientôt nous amener l'extrême droite partout en Europe ou partout dans le monde. Ce sont des politiques totalement... totalement suicidaire d'une certaine façon.
Oui, et on en parlait tous ensemble hors micro pendant la chanson de Rachida. Bon, vous avez sur votre site, on n'a pas parlé d'Étienne Tassin à qui vous rendez hommage, et il y a aussi sur votre site, voilà, ce qui nous préoccupe, nous tous qui sommes quand même dans le milieu de l'enseignement ou en tout cas qui fréquentons, comme Moha a pu le faire, des universités, notamment des universités comme l'Université de Paris 8 de Vincennes. On est absolument scandalisé quand on entend ce que la ministre Madame Vidal, c'est ça, de la recherche et de l'enseignement supérieur, la manière dont elle justifie le fait que, voilà, on a quand même pour projet de faire payer plus cher les étudiants qui seraient hors communauté européenne. Si là, on n'est pas dans une démarche raciste, xénophobe, et moi, encore une fois, j'ai fait toutes mes études dans une université dite de gauche, accueillante à ces publics qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, ou au contraire, à l'autre bout de la planète, des publics qui viennent de l'Amérique du Sud, et qui viennent pour des raisons de culture, pour des raisons politiques, pour fuir des conditions et pour aller en Europe et espérer changer de vie, avoir une vie meilleure. Et voilà ce qu'on leur réserve. Alors la France a beau jeu après de faire la morale au reste de la planète. Voilà, on est vraiment dans des questions qui touchent directement le paria et à ses virtualités, puisque votre association porte ses virtualités à travers ce qu'on disait au départ, ce qui la meut, cette association du politique, du militant, du scientifique, etc.
Oui, puis dans la démarche de la ministre, Madame Vidal, on a presque un retour du refoulé, c'est-à-dire une forme de néocolonialisme, enfin, faut être clair, quoi.
Absolument.
Oui, on parle beaucoup des mouvements post-coloniaux, etc. Mais effectivement, on a oublié en fait le néocolonialisme et toute la teneur néocoloniale en fait des rapports géopolitiques, enfin à l'échelle internationale. Mais tu as raison de parler de cette histoire d'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. C'est tout simplement insupportable en fait. Comme bien sûr, donc il y a deux choses derrière. Il y a à la fois une fermeture. Voilà, encore un degré supplémentaire dans la fermeture des frontières, c'est-à-dire qu'on veut plus les étudiants pauvres, on veut ceux qui peuvent payer, en gros.
Oui, tout à fait.
Sauf quelques boursiers à qui on attribuera des bourses.
Oui, tout à fait.
Mais qui représentent pas grand-chose par rapport au nombre d'étudiants étrangers qui étudient en France. Donc c'est en pleine contradiction avec l'idée de la francophonie, la diffusion de la culture française, etc. Enfin, ce sont des politiques absurdes. Mais donc, et derrière, il y a évidemment ce qui se profile, bien sûr, c'est l'augmentation des frais d'inscription pour tous à la fin, avec une différenciation des statuts, évidemment, puisque tout ce système libéral, on l'a vu dans les universités, on l'a vu fonctionner dans le monde de la recherche. Il essaye de briser en fait les statuts et de différencier les statuts les uns vis-à-vis des autres. Donc l'idée, c'est bien de casser l'unité pour fabriquer des statuts différenciés.
Ouais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Laurent, Nathalie, moi, on est vraiment une société très schizophrène, quoi. D'un côté, on a le discours lénifiant, il faut s'ouvrir, et il faut faire la place à l'autre, et puis une politique extrêmement répressive, quoi, quasi sauvage.
Tout à fait. Bon, mais écoutez, l'émission touche à sa fin, malheureusement. On espère bien recevoir l'association Le Paria de nouveau. On va pas vous lâcher.
Avec grand plaisir.
Voilà.
Merci, Nathalie.
En tout cas, on renvoie nos auditeurs à ce site vraiment très bien fait, leparia.fr. Consultez-le, lisez, tenez-vous au courant, parce qu'il est vrai que si on attend les médias officiels pour nous tenir au courant de ce que vous diffusez, on peut se lever de bonne heure. Voilà, on est vraiment ravis de vous avoir reçu, hein, Isabelle, ça a été vraiment...
C'était génial, merci voilà. Moi, merci Laurent.
Moi je voulais juste préciser un truc, juste le dernier mot, quand je me suis fait tabasser par les flics, en fait, il faut dire aux gens que... Et c'est moi qui dois payer, tu vois, c'est pas la police qui travaille pour la justice, comme disait Foucault, c'est la justice qui travaille pour la police.
Bien
voilà.
Sûr, bien entendu.
C'est clair.
Ça, c'est très, très clair.
Dans cet ordre.
Il va décider.
De la fin, merci
voilà,
à tous. Merci de votre écoute.
Voilà, il va falloir décidément que vous reveniez.
Ah ouais, là.
Inch'Allah, comme on dit chez moi.
Il faut.